OK, on va continuer notre étude sur Genèse 45. J'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui, le sermon d'aujourd'hui, « La famille de Joseph reçoit trois grâces ». Alors, on va voir à l'intérieur du texte qu'il y a trois grâces très distinctes l'une de l'autre que le Seigneur va accorder à la famille de Jacob. Donc, la grâce de la révélation, on sait que les frères étaient venus, ils avaient ramassé du blé, ils avaient retourné dans le pays et... Une des conditions que Joseph avait demandé, c'est qu'il ramène Benjamin avec eux. Et là, on a vu que Benjamin il avait mis quelque chose dans son sac, il avait l'air de comme s'il avait volé la coupe à deviner de son maître. Et là, Judas, on a vu ça la semaine dernière, Judas est intercédé, a intervenu en faisant un discours touchant au cœur de Joseph. Joseph a tellement été touché que ça a été le moment où tout s'est révélé. Alors, pourquoi je l'appelle la première grâce qui leur est accordée, c'est la grâce de la révélation. Parce que la révélation, c'est que la famille, les frères de Joseph ne savaient pas que celui qui était en charge de leur donner le blé était leur frère qui avait vendu. Imaginez-vous. Imaginez les frères qui ont vendu et que là, ils s'imaginent qu'ils ont affaire à un Égyptien. Et là, Joseph éclate. Il est plus capable parce que la plaidoirie de Judas a tellement été profonde et riche que là, il éclate. Il se met à broyer, autrement dit. Et là, tout le monde l'entend, les Égyptiens l'entendent. Et là, bien entendu, le fait de se le faire déclarer comme ça se dit dans le texte qu'il était figé. Imaginez! Vous pensez que c'est un dirigeant d'Égypte, puis là, il vous dit, c'est moi, votre frère Joseph que vous avez vendu. Et là, il leur rappelle pourquoi Dieu a fait ça dans leur vie. Alors, la grâce de la révélation, versets 1 à 15. La grâce de la, je l'ai appelée la réintégration, versets 16 à 24, parce que Dieu va se servir de cet événement-là pour aller chercher toute la famille et les convaincre de venir rester en Égypte. C'était pas évident, là. Parce qu'un gars comme Jacob, il avait passé sa vie dans ce pays-là, tu lui dis, Joseph, il est vivant, premièrement, imaginez. Lui, il est sûr, parce que ses fils, il lui avait menti, il lui avait dit, il avait trempé ses vêtements dans le sang, puis il avait dit à son père, regarde si c'est la robe qu'avait ton fils. Lui, dans sa tête à lui, il était sûr que Joseph était mort. Imaginez-vous les frères qui reviennent et là ils disent, garde les voitures qu'ils nous envoient pour t'aider à transporter toute la famille. Joseph est vivant et là ils répétaient ce que Joseph leur avait dit. Bien entendu, ça dit dans le texte que Jacob, le cœur, est resté froid. Mais à force de regarder les voitures, à force d'entendre ce que ses fils disaient, ils ont fini, là son esprit se ranime. Autrement dit, il se dit, je t'assure que mon fils est à mort, puis il est vivant et je vais le revoir. Assez spécial. Donc, Dieu va se servir de l'événement pour réintégrer toute la famille et les déménager en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une prophétie où Dieu avait dit qu'ils iraient en Égypte pendant 400 ans et qu'il les ferait sortir. Alors, ça faisait partie de l'histoire d'Israël que d'avoir un séjour en Égypte, où ils deviendraient des esclaves et où Dieu les libérerait. Alors, c'est intéressant, la réintégration et la restauration, la dernière, verset 25 à 28, c'est vraiment l'idée que Dieu va restaurer l'esprit de Jacob. C'est comme, essayons d'imaginer que nous, on est convaincus que quelqu'un de notre famille qui est mort. Disons qu'on est sûr. Quelqu'un arrive 10, 15 ans après, puis nous dit, tu sais, là, la personne que tu penses qui est mort, il n'est pas mort. Il est vivant. Imagine comment on réagirait, nous. Alors, c'est exactement la même chose. Donc, la restauration de l'esprit de Jacob, c'est qu'à force de voir, premièrement, à ce moment-là, ce qu'on appelle des chars, là, c'était des genres de chariots pour aider à transporter tout. La famille de Jacob en Égypte, c'était pas n'importe qui avait ces chars-là. C'était comme, c'était les riches. Alors, il voyait bien qu'il y avait quelque chose, il y avait quelqu'un en Égypte qui était suffisamment puissant pour avoir fourni ces chars-là. Alors, maintenant, à force d'observer, puis à force de se le faire dire par ses fils, il a fini par croire. Oui, je vous crois, mon fils est vivant et Dieu va permettre que je le revoie. Imaginez-vous, c'est un petit peu sur ses vieux jours, avec toutes les souffrances que ses enfants lui avaient fait subir à cause de leur très, très grave péché. Moi, je trouve que c'est un des chapitres les plus touchants de toutes les, du livre de la Genèse. C'est quand ils se déclarent à eux. Et eux, là, sont figés. Imaginez-vous quelqu'un qui a péché en vendant ton propre frère pour être vendu. Et que là, il se fait dire, « C'est moi, Joseph! » Il devait être là, il devait avoir l'air des vrais... il devait pas être beau à voir, comme on dit. Mais de voir que Dieu avait éduqué Joseph au point de vue de son caractère pour qu'il soit capable de voir la main providentielle de Dieu dans tout le déroulement de cette histoire-là. Et qu'il voit la main providentielle de Dieu dans le fait que la famille va être réunie et qu'eux vont finalement apprendre qu'il n'est pas mort et non seulement il n'est pas mort, mais Dieu va se servir de toute cette histoire-là pour sauver la future nation d'Israël et pour les emmener à la réalisation, à l'accomplissement d'une prophétie qu'il avait faite, comme de quoi il fallait que le peuple aille en Égypte. Très intéressant, très, très intéressant. On apprend beaucoup de choses sur le Seigneur dans ça, dans ce passage-là. Alors, Jacob et ses enfants ont connu, au cours des dernières années de leur vie, ben, du moins Jacob, parce qu'il était déjà rendu un vieillard, de très graves épreuves au cours des années. Premièrement, on revise un petit peu l'histoire de Jacob, parce qu'il a vécu beaucoup de choses difficiles au cours des dernières années. Et quand on les remet toutes ensemble, ça nous aide à apprécier l'état d'esprit dans lequel il était quand il apprend que son fils est vivant. Premièrement, il a perdu sa femme bien-aimée, c'était Rachel. Et il l'a perdue dans des circonstances un peu particulières. C'est lorsqu'elle a donné naissance au deuxième enfant de cette femme bien-aimée-là, Benjamin. Sa femme est morte en donnant naissance à Benjamin, fils de ma douleur et fils de ma droite, là, quand on se souvient les noms qui avaient été donnés. Il y avait eu aussi l'inceste de Ruben avec Bila. Donc, il y avait eu quatre femmes dans la vie. Hein. Il y a eu deux femmes légitimes et il y a eu deux servantes qui sont devenues ces femmes un peu comme par la bande, on pourrait dire. Mais Ruben avait commis l'inceste, autrement dit, il a couché avec la femme à son père, qui était un grave péché. Ce qui lui a fait perdre son droit d'aînesse. Donc, la concubine de Jacob, il avait couché avec. Il y avait eu une autre chose qui s'est assez grave qui s'était passée dans sa vie. C'était l'histoire de Dina, la fille. Alors, l'ensemble, il y a eu tous des gars, excepté une, puis c'est la fille. Et elle a eu une curiosité, elle a voulu aller là, voir les filles du pays. Et là, elle a été violée. Et on sait que les frères, deux des frères ont été extrêmement violents. Ils ont utilisé le mensonge. Et ce qui aurait pu faire ravager toute la nation d'Israël naissante. Là. Parce que si ces gens-là avaient eu à l'esprit de se venger, c'était fait. Là. Alors, il avait connu ça. Il avait connu aussi la jalousie des frères de Joseph qui les avaient amenés à vendre leurs frères aux Ismaélites et le mensonge qu'ils ont conté à leur père, qui était un mensonge extrêmement grave. Et fort probablement qu'eux, ils n'ont pas réalisé jusqu'à quel point ils amenaient de la douleur dans le cœur de leur père. Si vous faites une affaire de même, puis vous pensez, vous dites, oh, au bout d'un an, ça va être fait, il va l'oublier. Ce n'était pas le cas. Le père n'a pas été capable de le digérer. Il ne l'avait pas encore digéré après toutes ces années-là. Et il y avait aussi, pour les frères, l'immense culpabilité de tout ce qu'ils avaient fait d'avoir vendu leur frère en Égypte. Et on se souvient que la première idée, c'était de le tuer. Mais il y en a un qui est intervenu, tuons les pauvres, rendons-les à la place. Alors, imaginez-vous la culpabilité du péché. Pas pour rien que toutes les affaires qui sont arrivées lors de leur voyage pour aller chercher du blé, que la culpabilité lui pesait, il commençait à voir la main de Dieu dans les circonstances que Dieu permettait qu'il leur arrive, qui étaient des choses douloureuses. Il commençait, Dieu se servait de tous ces événements-là pour les amener à faire remonter leurs péchés à la mémoire pour qu'ils puissent éventuellement les confesser. Et les conséquences de ça, qu'est-ce qu'il avait vécu, c'est les souffrances et les épreuves de Joseph en Égypte. On ne rentrera pas dans tout ce qu'il a vécu en Égypte, la prison, les fausses accusations de viol et toutes ces choses-là. Autrement dit, la famille au complet, Jacob, les fils, y compris Joseph, ont tous subi les conséquences très graves des péchés. Et autre chose, qui n'était pas la plus petite non plus, il était en train de traverser une famine extrêmement grave. Si Dieu ne s'était pas servi de cet événement-là pour amener Joseph à la tête du pays et que Pharaon lui donne la charge de la distribution des vivres, il crevait. Il aurait littéralement crevé. Parce que Dieu travaillait avec toute cette histoire. Dieu se sert du pays. Moi, ce que je trouve le plus beau dans ce passage-là, c'est que Dieu est capable de transformer du péché en chose qui est en bien pour tout le monde. Alors, tout le monde va connaître du bien là-dedans. Alors, on parlait tout à l'heure d'orchestration. Le Seigneur, c'est un maître, comme un maître d'une grosse orchestre. Et les circonstances qu'il permet qu'il arrive dans nos vies sont toutes les circonstances, qu'elles soient joyeuses ou qu'elles soient tristes ou qu'elles soient... C'est comme un gros tricot que le Seigneur fait avec les circonstances de nos vies. Et si on retient ça du texte, on retient beaucoup. Là. On est en train de retenir que ce que le Seigneur faisait dans la vie de Jacob, de ses frères, de Joseph et même des Égyptiens, à travers tout cela, c'est si on apprend que Dieu est au contrôle de nos circonstances, à travers ce texte-là, on a beaucoup appris. Alors, dans les circonstances providentielles que Dieu permet qu'il arrive dans nos vies, certaines sont douloureuses, on le sait. Hein? Depuis qu'on est venu au monde, là, dans mon cas, je m'en vais sur 73, là. Je sais qu'il y a des circonstances qui sont douloureuses. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas douloureuses aussi, qui sont agréables. Alors, le Seigneur sait mélanger les deux. Le Seigneur, c'est un bon doseur. Il dose ça à sa façon, à sa manière, plein de sagesse, plein d'amour, plein de miséricorde. Puis c'est toujours dans toutes nos vies. Si on regarde comment Dieu a travaillé dans la vie de Joseph, dans la vie de Jacob, et la conclusion de ça, c'est-tu pas merveilleux? Il est en train de leur... Et nous, qu'est-ce qu'on doit retenir de cela? C'est que Dieu fait exactement la même chose dans nos propres vies. Des choses qui nous paraissent, des fois, comme... Penser que ton fils est mort, là, dans ta tête à toi, là, c'est même pas pensable que tu vas le revoir. À retenir du texte, même ce qu'on croit qui est même pas pensable dans notre tête, Dieu est capable de faire des choses merveilleuses avec ça. Alors, le Seigneur s'est dosé. Alors, la grâce de la révélation, dans les 15 premiers versets, on voit un Joseph qui est au comble de l'émotion et qui n'a plus aucun contrôle sur ses émotions. La plaidoirie de Judas vient toucher son cœur au point où que là, il n'est plus capable, il éclate, et là, il sent le besoin de raconter, de révéler son identité à ses frères et de les convaincre et de leur faire comprendre qu'il ne leur en veut pas. Imaginez-vous ses frères en face de lui, avec la puissance qu'il avait. Il aurait pu dire, ah oui, c'est à mon tour. Et là, il aurait pu les faire mourir, il aurait pu les emprisonner, il aurait pu leur faire connaître les pires douleurs. Et non seulement il a le contrôle sur sa manière d'être envers eux, mais il est tendre envers eux. C'est beau, moi je trouve ça tellement beau. Alors qu'il devrait, il pourrait leur en vouloir à mort. Qu'est-ce qu'il a appris avec les années? C'est de voir la main de Dieu dans le dosage des choses qui arrivent dans sa vie. Nous, si on lit ce chapitre-là, puis qu'on n'apprend pas que Dieu fait la même chose dans nos propres vies, on a lu le chapitre pour rien. Le Seigneur nous dit dans les Écritures que tout ce qui est dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau aussi, bien sûr, mais il nous parle particulièrement, dans le Nouveau, il nous parle que toutes les choses nous sont données pour deux raisons, pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Alors, si on lit ces passages-là, puis qu'on ne retient pas une instruction pour nos propres vies, on lit juste une belle histoire. Tu aurais pu prendre un livre d'histoire chez vous, j'aurais fait la même affaire. Mais ça, ici, Dieu veut te montrer quelque chose. Alors, malgré que les frères de Joseph avaient rencontré Joseph en Égypte lors de leur voyage pour s'approvisionner en blé, ils n'avaient pas reconnu leur frère Joseph. Ça, c'est spécial aussi. Même après, disons, 10-15 ans, on change. Mais il fallait que l'attitude, l'apparence physique, les vêtements, la manière de... Je ne sais pas s'ils se maquillaient, s'ils se mettaient... Tu sais, les je ne sais pas, mais il reste que tu dis que c'est ton propre frère, puis tu ne le reconnais pas. À quelque part, il fallait que la transformation dans l'habillement, dans la manière d'agir, soit tellement grande qu'ils ne l'ont pas reconnu, puis à plus qu'une reprise. Et là, il rencontre un gars dont le rang social est le grand boss pharaon, puis tout de suite après, Joseph. Que Dieu a permis qu'il soit élevé là pour amener le peuple, le futur peuple d'Israël en Égypte, et pour leur sauver la vie, parce que là, il va leur apprendre, écoutez les amis, là, il vous reste encore 5 ans. Que si je n'étais pas là pour vous fournir en blé, là, vous auriez toutes crevé de faim. Alors, il est en train de montrer comment Dieu travaille. Alors, le chapitre 44, comme on avait étudié la semaine dernière, nous avait fait écouter la très touchante plaidoirie de Judas à Joseph pour empêcher que Benjamin ne soit retenu en Égypte. Parce que pour Judas, qui avait fait le serment à son père, il n'était pas capable de s'imaginer de devoir retourner rencontrer son père, puis de lui dire, « Benjamin, pas avec moi. » Il n'était pas capable. Il était, lui aussi, il avait une plaidoirie touchante, mais c'est parce qu'il avait les raisons d'être touchant. Alors, il avait plaidé avec tout son cœur, et il l'avait fait de façon courageuse aussi. Il l'avait fait de façon très éloquente, et il l'avait fait de façon humble, parce qu'il avait reconnu... Et il l'avait fait de façon simple, de façon tendre, de façon émotive. Très intéressant, les deux derniers adjectifs que je vais utiliser pour parler de sa plaidoirie, substitutive et sacrificielle. Il est en train de dire à Joseph, « Je suis prêt à me substituer à Benjamin. » Parce que tout avait l'air de dire que Benjamin était coupable. Il ne l'était pas, mais tout avait l'air de dire, et lui, il était généreux au point de dire, la punition que Benjamin mérite, je vais la prendre sur moi. Ça ressemble-tu à quelqu'un qu'on connaisse?
Oui.
Substitutive et sacrificielle. Il était prêt à se sacrifier pour cela. Alors, verset 45, verset 1 à 4. Alors Joseph ne put plus se retenir devant tous ceux qui étaient là présents, et il cria, « Faites sortir tout le monde !» Et nul ne demeura avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et il éleva la voix en pleurant. Il y a beaucoup de pleurs dans le chapitre 45, ça brasse beaucoup. En pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph ! Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. On imagine, il est presque, juste d'essayer de se rentrer dans la tête, là, qu'il se trouvait devant Joseph, Puis là, là, il leur dit, c'est moi, Joseph, vous m'avez vendu, là, pour être en Égypte, là. Il devait être complètement, il devait avoir l'air ébahi, il devait avoir l'air complètement perdu, comme on dit. Alors, Judas et ses frères se trouvent devant Joseph et attendent anxieusement devant leur juge sa réponse à la supplication de Judas. On imagine Judas qui fait sa supplication, qui fait sa plaidoirie, et on imagine qu'il attend la réponse de Joseph. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce qu'il va dire, oui, t'es coupable, puis je t'accorde que Benjamin retourne et toi tu restes? Il attend. Et là, c'est là que Dieu permet que tout trouve. Alors, les paroles émouvantes de Judas sont la goutte qui fait déborder le vase. Il éclate en sanglots. Il commande à son personnel égyptien de sortir de la pièce et s'identifie clairement auprès de ses frères. Ceux-ci sont abasourdis, imaginez, figés. J'imagine. Il va avoir les yeux grandement. Submergés par la surprise et la stupéfaction. Là, ils n'en reviennent plus. Hein, ça se peut-tu, c'est-tu lui? Imagine les questions qui devaient lui tourner dans le cerveau. Ils sont tellement terrifiés qu'ils ne peuvent répondre à Joseph lorsque celui-ci leur demande des nouvelles de son père. Parce que là, pourquoi ils étaient terrifiés de répondre? Fort probablement parce qu'ils se disaient, celui qu'on a vendu, là, il est rendu plus puissant en Égypte. Là, dans sa tête, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va réagir? Il va-tu se venger? Ou bien non, s'il va être miséricordieux envers nous autres. Alors, Joseph réalise qu'il est nécessaire de les rassurer. C'est là qu'on voit la bonté. Dieu a travaillé dans le caractère de Joseph pour qu'il les rassure. Mais non, il a usé de tendresse envers eux qui avaient été si cruels envers lui. Alors, en confirmant son identité, Joseph plonge ses frères dans une nouvelle détresse car ils sont alors, bien sûr, dominés et écrasés par le poids de leur culpabilité et aussi par la peur. J'imagine, ben, rentre dans le pot, t'as vendu ton frère est rendu plus puissant en Égypte. Tu dois avoir peur un peu qu'il décide de se venger. Et là, Joseph leur rappelle leur crime passé envers lui, de l'avoir vendu pour être mené en Égypte. Ça ne devait pas être facile à entendre pour eux, là, de se faire dire. Il leur dit dans le verset 5 à 9, « Et maintenant, ne vous affligez pas et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici, car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine est sur la terre, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson, mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi pour père à Pharaon et pour seigneur sur toute sa maison et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de monter vers mon père et dites-lui, ainsi a dit ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur sur toute l'Égypte, descends vers moi et ne t'arrête point. » Très intéressant de noter que du verset 5 à 9, 4 fois le nom de Dieu est mentionné. Autrement dit, il est en train de faire comprendre à ses frères que c'est Dieu qui est la cause de tout cela. Pas la cause du péché des frères, mais qui utilise le péché des frères pour en arriver à en faire sortir du bien. Dans le verset 5, il dit, « C'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Dans le verset 7, il dit, « Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre. » Dans le verset 8, ça dit, « Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. » Puis dans le verset 9, « Dieu m'a établi, Seigneur, sur toute l'Égypte. » Très intéressant de voir que dès qu'il s'est révélé à eux, il y a intégrer le nom de Dieu dans l'histoire, pour qu'eux, ils comprennent que ça n'enlève pas leur responsabilité, parce qu'au point de vue responsabilité face au péché, ils sont coupables. Mais que voir que Dieu est capable de servir du mal pour en faire sortir du bien, et que non seulement ça, mais que la personne qui pourrait se venger ne se venge pas, n'est-ce pas parce qu'il y avait eu une transformation de son caractère? Alors le Seigneur s'est servi du péché des frères de Joseph pour en faire ressortir du bien. Et ceci, à la fois pour Joseph et à la fois pour ses frères. Pour toute la famille de Jacob et la nation d'Israël. Voyez-vous, ça a parti d'une histoire d'individuel avec de la jalousie. Et Dieu se sert de ça pour sauver une nation qui était naissante, là, pour la sauver et l'amener là où il voulait l'amener pour l'Égypte. Alors, il leur dit que la bonne main de Dieu agissait pour leur bien. Et non seulement il fait ça, mais il apaise les craintes de ses frères par cette doctrine-là que Dieu est intervenu dans la vie pour leur sauver la vie. Quand on regarde le verset 10 à 15, et là, il leur dit, « Allez chercher le papa avec la famille. » Il leur fournit tout ce qu'il faut pour transmettre. Imaginez-vous à cette époque-là, un voyeur. Je n'ai pas regardé que dans les commentaires quelle distance qu'il y avait là, du pays. Allez, mais ça devait être ça devait être assez long. Il dit, et là, il leur dit dans le verset 10 à 15, « Tu habiteras au pays de Gozan et tu seras près de moi, toi, tes enfants et les enfants de tes enfants, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Et je t'y entretiendrai, car il y a encore 5 ans de famine, de peur que tu ne périsses de pauvreté, toi et ta maison et tout ce qui est à toi. » Tu es en train de te dire, on n'a même pas aucune idée, nous, ce que c'est une famine. Là, ça faisait 2 ans qu'il vivait. Mais là, il est en train de leur apprendre que Dieu lui a fait savoir que ça durerait encore 5 ans. Et si ça n'avait pas été du fait que lui était rendu là, il aurait tout crevé. Alors, de voir la bonté de Dieu là-dedans. Et le verset 12, « Et voici, vous voyez de vos yeux, et Benjamin, votre frère, voit aussi de ses yeux, que c'est moi qui parle de ma propre bouche. Racontez donc à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et hâtez-vous de faire descendre ici mon père. » Alors il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Et il baisa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretiennent. Il y a beaucoup de pleurs. Hein? Mm-hmm. J'imagine que quand ça a éclaté, là, qu'ils se sont rendus compte que non seulement il nous pardonne, mais non seulement il voit Dieu là-dedans, mais non seulement il veut nous sauver pour les 5 ans de famine qui restent à vivre, puis il veut tout nous donner pour nous ramener. Ça devait broyer mal. Alors, il veut leur rappeler que Dieu, malgré leur méchanceté, va permettre qu'ils connaissent la prospérité. Le pays de Goshen, c'était la partie du pays d'Égypte qui était la plus riche, la plus prospère. Et c'est là qu'il va les emmener à vivre. C'était aussi une occasion des retrouvailles familiales. Alors, la famille était comme divisée. Là, Dieu va permettre que tout le troupeau soit dans la même. Et il va permettre aussi la préservation de la vie en leur disant que ça va durer encore 5 ans, mais inquiétez-vous pas, mes greniers sont pleins, puis moi, je vais vous donner tout ce que vous allez avoir besoin pour vivre. Et aussi, la réalisation de la prophétie divine, 5 ans, et aussi, si on reculerait un petit peu plus loin dans la Genèse, on se souviendrait que Dieu avait dit qu'il enverrait son peuple en Égypte pendant 400 ans. Alors, il est en train de réaliser que ce qu'il avait dit... Souvent, on lit les Écritures et on oublie ce que Dieu a dit. Mais Dieu, lui, il ne l'oublie pas. Et il dit dans le verset 12 qu'il veut la paix avec eux. Imaginez-vous, vous avez vendu votre frère, puis là, votre frère vient dans mes bras. Tu dois-tu en avoir le goût? Tu dois filer comme par rentrant dessous du tapis. Et là, il leur dit que vraiment le Père va être consolé de tout cela. Et il leur donne des bons sentiments de tendresse, la consolation, la joie. Et c'est intéressant de voir que c'est le verset 15 que ses frères ont commencé à être capables de parler après que Joseph leur a démontré qu'il ne leur en voulait pas, qu'il était en paix. Il dit, verset 15, « Et il baisa tous ses frères en pleurant. » Après quoi? Autrement dit, c'est après qu'ils ont vu qu'ils n'en voulaient pas, qu'ils sont entretenus avec lui. Deuxième idée, c'est vraiment verset 16 à 24, c'est la grâce de la réintégration. Le Seigneur accorde une bénédiction à la jeune nation d'Israël, celle de la réconciliation familiale et de sa réunion. Ils étaient séparés et là, il va les ramener tous ensemble. Versets 16 à 19. Et ce bruit se répandit dans la maison de Pharaon. Les frères de Joseph sont venus, ce qui plut à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et allez, retournez au pays de Canaan, et prenez votre père et vos familles et venez vers moi, et je vous donnerai le meilleur du pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse de la terre. » Or, tu reçois l'ordre de leur dire, faites ceci, prenez pour vous du pays d'Égypte des chariots pour vos petits-enfants et pour vos femmes, et vous amènerez votre père et vous viendrez. De voir la bonté. Pharaon, il devait avoir sûrement été impressionné par le caractère de Joseph, puisque là, lorsqu'il sait que sa famille va venir, il fait tout en son pouvoir pour dire à sa famille, « Venez, inquiétez-vous pas, vous pouvez laisser les affaires là-bas, c'est pas grave, je vais vous donner tout ce qu'il y a de meilleur en Égypte, je vous le donne. Alors, inquiétez-vous pas, venez-vous-en. » Et faire transporter du monde en des chariots, à ce moment-là, c'était le grand luxe, comme on dit. Alors, Pharaon, il a sûrement, avec les années, apprécié la sagesse de Joseph et tous les bienfaits qu'il a apportés à l'Égypte. Et maintenant, c'est à son tour de témoigner sa gratitude à Joseph et à toute sa famille. Il fait tout en son pouvoir pour rassembler la famille et favoriser leur confort et leur donner du bonheur durant une période de famine. Je vais vous dire une affaire, si on connaîtrait vraiment une période de famine, puis qu'on connaîtrait quelqu'un qui serait assez gentil pour nous dire « ça va durer encore 5 ans », mais inquiète-toi pas, je suis avec toi, puis je vais te fournir, on serait vraiment extrêmement content. Très intéressant, verset 20 à 23 aussi, il dit « Ne regrettez point vos meubles, car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera à vous. » Les fils d'Israël firent ainsi, et Joseph leur donna des chariots, selon l'ordre de Joseph, et il leur donna des provisions pour le chemin. Il leur donna à tous des robes de rechange, et à Benjamin, il donna 300 pièces d'argent et 5 robes de rechange. Un peu bizarre, ça, ce petit bout-là. Hein? Tu te dis, moi, ça se fait qu'il en donne plus à Benjamin. C'est le frère de sa mère. Et là, c'était probablement encore une autre façon pour lui de vérifier si la jalousie était encore présente dans le cœur de ses frères. Parce que le même malgré qu'il leur a donné tout ça au plus jeune, à Benjamin, il ne semble pas qu'eux ont dit « Comment ça se fait que lui, il a eu 300 pièces d'argent? Comment ça se fait qu'il a eu, lui, il a eu ça, puis nous autres, on ne l'a pas? » Ça n'a pas provoqué ça. Et là, ça dit dans le verset 23, « Alors les provisions, Dieu fait en sorte qu'ils vont avoir tout ce qu'ils ont besoin pour se rendre jusqu'au pays, tout ce qu'ils ont besoin pour transporter tout ce monde-là en Égypte, dans le confort, parce qu'il dit qu'il le fait pour les femmes et pour les enfants. Fait voyager les jeunes enfants, là, à cette époque-là, ça ne devait pas être drôle, là, du tout. Là. Et dans le verset 24, on voit qu'il connaissait ses frères. Il dit, il renvoya donc ses frères, ils partirent, il leur dit, ne vous querellez point en chemin. Connaissais-tu le caractère de ses frères? Autrement dit, si vous voulez, ça y est bien pour y aller, je pourrai revenir. Arrêtez de vous chicaner. Parce qu'il y en aurait eu des occasions de chicaner. Judas aurait pu dire, « Mais je vous l'avais dit de ne pas le tuer, je vous l'avais dit de faire ci. » Il a commencé à s'ostiner, puis à se reprocher des choses. Et Joseph est assez sage pour leur recommander, « Faites tout ça, allez chercher papa. » Revenez, mais entre-temps, restez tranquille, je ne chicanez-vous pas. Versets 25 à 28, on sait que la vie de Jacob a été très fortement éprouvée. Il est persuadé que son fils est décédé. Et la restauration de son esprit va se faire, mais elle va se faire de façon graduelle. Imaginez-vous, vous êtes convaincu que votre fils est mort, et tout d'un coup, vous apprenez une pareille nouvelle, versets 25 et 26. Et ils remontèrent d'Égypte et vinrent au pays de Canaan, vers Jacob leur père. Et ils lui firent ce rapport et dirent, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son cœur resta froid, j'imagine. Il entend ses fils dire ça. Hey, franchement, là, emmenez-moi un autre. Resta froid car il ne l'est cru point. Alors les frères de Joseph annoncent à leur père Jacob que Joseph est encore vivant et qu'il gouverne le pays d'Égypte. Probablement dans la tête de Jacob, il a dû commencer à se poser des questions. Il gouverne le pays d'Égypte. Quand ils sont allés, c'était le gars. Je ne sais pas s'il a fait un lien dans sa tête à lui, si c'était Joseph. C'est pas clair, mais il devait se poser plein de questions. Plein de questions. Alors, il reçoit la nouvelle, bien entendu, avec incrédulité et froideur. Mais ses fils, ils ne lâchent pas. Verset 27, et ils lui dirent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le porter. Et là, ça dit que c'est la vision. C'est la vision, puis les oreilles, à force d'entendre les choses, il a fini par le croire. Et l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. C'est-tu beau?
Oui, c'est tellement
beau. Moi, je trouve ça tellement beau que Dieu permet que là, sur les vieux jours de Jacob, il va aller les finir en Égypte, il va voir son fils. Et tout ce qu'il a appris spirituellement dans sa vie, là, il va pouvoir le mettre en application. Verset 28, et Israël dit, remarquez une chose, des fois on lit, mais on ne se pose pas de questions. On lit, et Israël dit, pourquoi ça ne dit pas, et Jacob dit? Bonne question, hein? Israël, c'était le nom que Dieu avait changé lorsqu'il s'était réveillé. Pourquoi il utilise le nom d'Israël? C'est sûrement pour dire, on va venir avec la signification du nom. Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Alors, il est hautement significatif que le nouveau nom de Jacob, qui est Israël, soit utilisé dans le verset 28, parce que ça nous annonce véritablement un nouveau commencement. Ce nouveau nom lui avait été donné par le Seigneur et signifiait deux choses possibles, d'après l'hébreu. Celui qui lutte avec Dieu, ou Dieu est fort, Dieu triomphe. Les deux, c'est plein de sens. Donc, il avait lutté avec Dieu par la prière, et Dieu, c'était quand même Dieu qui avait eu la victoire, parce qu'on se souvient qu'il avait touché sa hanche et qu'il s'était mis à boiter. Donc, les deux significations, celui qui lutte avec Dieu, c'est le nom qu'il utilise. Et Israël dit, c'est assez. Et Jacob dit, et Israël dit. Donc, son nouveau nom spirituel, qui veut dire celui qui lutte avec Dieu, ou Dieu est fort, Dieu triomphe. Donc, l'esprit de Jacob, qui est Israël, sent de nouveau la vigueur de la jeunesse et est rempli d'espoir. Imaginez-vous, pendant que vous avez été pendant des années à croire que votre fils est mort, puis tout d'un coup, il se produit une nouvelle que là, tu sais qu'il n'est pas mort. Non seulement il n'est pas mort, mais là, j'embarque sur un chariot, puis je m'en vais le voir. Je vais le revoir, mon fils. Imaginez-vous le changement dans son esprit. Et tout cela, c'est toutes des bénédictions de Dieu. On a dit trois choses, trois bénédictions. La famille de Joseph reçoit trois grâces, trois bénédictions. La révélation, la réintégration familiale et la restauration de son esprit. Alors, moi, je termine par le verset Romains 11, verset 33-36. Pourquoi j'aime tellement ce verset-là? Parce que quand vous étudiez Romains, vous vous rendez compte que Paul parle du salut, comment Jésus a réalisé le salut. Et c'est à la fin complètement, de quand il a eu parlé du salut durant les 11 premiers chapitres, qu'il fait cette déclaration pour louer le Seigneur sur la manière dont il amène le salut. Et donc, les Juifs l'ont perdu, et les nations l'ont reçu. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. N'est-ce pas que ça s'applique à toute l'histoire de Joseph? Les voies impénétrables, des jugements incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et en sera payé de retour? Car, moi j'aime tellement le verset 26. Verset 26, là, toutes les Écritures sont dans le verset 36. Toutes! Il parle de Dieu. Car il dit, car toutes choses sont de lui, la source, et par lui, le canal, et pour lui, la destinée ultime. Et c'est profond, ça. Ça, là, toutes choses sont de lui, par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Trois applications du chapitre 45. Premièrement, implorons le Seigneur de nous donner de voir sa main providentielle dans les circonstances souffrantes et incompréhensibles de nos vies quotidiennes. On en vit tous des affaires semblables, mais si on a quelque chose qu'on se doit de retenir de cette leçon-là, c'est que le Seigneur, c'est lui qui est le maître, et on se doit de s'habituer à voir la main de Dieu dans les circonstances que Dieu permet dans nos vies. Ils ne sont pas trop drôles. Elles sont les circonstances dirigées avec sagesse, avec intelligence et avec un but, celle de nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Deuxième application, reconnaissons les innombrables bontés, les innombrables miséricordes et les innombrables bénédictions quotidiennes du Seigneur dans nos vies. N'oublions pas de lui rendre grâce. Troisième application, sachons que l'imprévisible, l'inattendu et l'inconcevable fait partie du plan de Dieu dans nos vies. N'est-ce pas qu'il y a des choses qu'on pense des fois, ça se peut presque pas. T'sais, des fois, on raisonne comme ça, ça se peut presque pas. Des fois, on pense, des fois, ça peut être le salut de nos enfants, ça fait 25 ans, 30 ans. Ça fait 40 ans que tu pries pour ton enfant, là, puis tu vois que ça n'arrive pas. Là. N'est-ce pas que tu penses que ça n'arrivera jamais? Ou tu es porté à penser que ça n'arrivera jamais? Mais avec Dieu, ça ne marche pas de même. Voyez-vous, lui, il est sûr qu'il ne reverrait jamais son fils. Pourtant. Alors, l'imprévisible, l'inattendu et l'inconcevable fait partie du plan de Dieu dans nos vies. Comme le Seigneur l'a fait avec Jacob, il peut et va le faire avec nous également. Louons-le pour les surprises agréables qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Que notre grand, glorieux et souverain Seigneur soit béni, loué et exalté pour sa bonté, sa sagesse et sa miséricorde dans la direction de nos vies. Amen.